Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On débriefe l'actu tech comme chaque soir avec, ce soir sur le plateau de Tech & Co, Taïk Riss qui est là. Salut Taïk.
Salut, salut.
Un peu trop bronzé à mon goût, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, hein. Quand on est une star du web, parfois, on est bronzé. Ça va? Tout ça,
ça va
passer?
Ça va, je reviens. J'ai pris un peu de vacances.
Un peu de vacances.
Voilà, bon, c'est pour ça que je suis bronzé.
Il y avait du soleil, visiblement.
Exactement.
C'est tant mieux. Damien Douani qui est un peu moins bronzé, quand même, j'avoue.
Mais moi, je passe du temps derrière l'écran, en fait, c'est pour ça.
Faudrait que tu trouves un écran, tu sais, avec des...
Ouais, c'est ça qui, ouais.
Je pense que ça n'a pas empêché Taïk de passer derrière son
des
écran.
Des ultraviolets, oui, c'est ça.
Oui.
Le télétravail.
Télétravail. C'est clair qu'à 4 heures du matin, parce que j'étais au Brésil, j'étais quand même sur l'ordi en train de travailler.
Et oui, mais quand on est entrepreneur aujourd'hui, on est obligé de travailler tout le temps. C'est compliqué de prendre des vacances et de tout décrocher.
Mais on le fait par passion.
De tout arrêter, on le fait par passion, en effet. Taïk Riss, rappelons que tu es fondateur de On Off, entre autres. Tu es entrepreneur du web, je le disais. Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil Lab36. Fin connaisseur de l'actualité tech, hein. Et Frédéric Simotel, bien sûr. Salut Fred.
Salut les amis.
Journaliste à BFM Business. Quelle actualité pour ce début de semaine, avec encore une fois la bataille DMA-GAFAM qu'on va vous raconter dans quelques instants. On va parler aussi de cet abonnement payant de Facebook qui est passé de 10 euros à 5, mais l'UE veut maintenant... interdire cet abonnement. Voilà. Alors, est-ce que c'est légitime? On en parlera aussi. On parlera aussi d'intelligence artificielle avec Apple qui hésite visiblement, parce que vous savez que les enjeux sont importants pour Apple, hein. iOS 18, qui devrait sortir à la rentrée prochaine, devrait être truffé d'IA, mais comme Apple ne serait pas prêt, il serait en train de lorgner soit du côté de Google et Gemini, soit du côté d'Anthropic. Alors, on va en parler parce que c'est intéressant. Et puis aussi la fin de l'anonymat sur le web qui a été défendue par des députés. Alors, est-ce que il faudrait qu'on soit pisté sur Internet finalement? Évidemment, derrière tout ça, il y a ce sujet de harcèlement, de fausses informations, etc., etc. Ça revient sur le tapis. On en parlera tout à l'heure, hein, Taïk, hein. Garde ta salive sur ce sujet, parce qu'on aura le temps de l'évoquer tout à l'heure. Mais pour débuter donc, Frédéric, Taïk et Damien, je vous invite à revenir sur le DMA. Vous le savez, cette réglementation exceptionnelle, révolutionnaire, mise en place par l'Europe pour essayer de faire un peu plier les géants de la tech américain, que ce soit Google, que ce soit Apple, que ce soit Microsoft, enfin tous y passent, Meta bien évidemment aussi, Amazon a eu son DMA et son DSA. Alors vous le savez que tous ces géants américains avaient jusqu'à début mars pour proposer en fait leur version du DMA, et visiblement l'Union européenne est en train de dire, écoutez les gars, pour certains vous n'êtes pas allés vraiment très loin. On n'est pas satisfait. On va mener une petite enquête pour faire le point, mais a priori, il va falloir que vous alliez un petit peu plus loin dans l'ouverture en fait de
dans
vos
les
services.
Dans les obligations, hein, il y a une vingtaine d'obligations et il faut qu'ils répondent à plusieurs de ces obligations. Et là, ils y répondent, mais parfois avec un, on a juste trempé leur taille dans l'eau.
On prend le cas d'Apple parce que c'est celui qu'on a évoqué le plus souvent et qui est le plus, on va dire, le plus
emblématique.
Voilà, qui évoque le plus tout ça, hein. C'est le fait d'avoir un App Store alternatif. Mais le problème, c'est qu'Apple ouvre l'accès à un App Store alternatif, mais c'est vraiment sous plein de conditions particulières qui sont très complexes et qui rendent très compliqué pour un auteur, un éditeur d'un App Store alternatif de se lancer là-dedans. Enfin voilà, et puis il y a aussi cette taxe des 50 centimes d'euros, vous le savez, dès qu'on dépasse le millionième de téléchargement d'applications. Bref, l'Europe dit, il va falloir faire un effort parce que là, vous n'y allez pas assez vite et assez fort. Fred, est-ce que tu penses que justement ce petit jeu du chat et de la souris, on a l'impression que c'est le début de l'histoire finalement,
c'est le début de l'histoire, mais enfin alors je vais pas revenir aux années Internet de Microsoft avec son navigateur, tout ça, qui avait quand même poussé Microsoft à désolidariser son navigateur, enfin ne plus faire entre guillemets de la vente forcée, hein. On achetait Office, mais en même temps on avait le navigateur qui était la porte d'entrée sur Internet et les autres se développaient pas. Et c'est à partir du moment où le navigateur Internet Explorer Pandora a été détaché, qu'on a vu apparaître des Safari, des Opera, des Mozilla Firefox. Et puis plus tard, que Google s'est dit, tiens, ben nous aussi, on va y aller. Ils ont sorti leur interface Chrome. Et là, ce que je trouve bien de la part de la Commission européenne, c'est de dégainer assez vite. Le DMA est sorti. On n'attend pas 2 ans, 3 ans avant de dire, tiens, on va appliquer. Là, on fait ce qu'on a dit.
Là, c'est 3 semaines après.
On a dit ce qu'on allait faire et on fait ce qu'on dit. Voilà. Après, derrière, faut voir un peu ce que tout ça va donner parce que on est tous pareils. Hein. L'autre jour, je crois que c'est sur ce plateau, quelqu'un disait oui, on protège le consommateur, mais on embête un peu l'utilisateur. La preuve, c'est je prends juste l'exemple qu'on prend à chaque fois, mais moi j'en suis victime à tout moment. On rentre une adresse dans Google, on n'a plus accès à Google Maps, faut ressortir pour choisir. Enfin voilà, donc c'est un peu moins pratique. Mais là, au moins les choses sont dites. C'est vrai que cette histoire des 30% et Taïk pour nous en parler parce qu'il développe des applications des 30%. Faut le rappeler. Hein. On le rappelle ici souvent, mais quelqu'un qui développe une application donc qui est sur l'App Store, s'il y a quelque chose qui est payant, aujourd'hui, le but
Apple
est...
Apple prend 30%.
Apple prend 30%. Merci. Et le DMA demande à ce que l'on guide un peu c'est le style, hein, on guide l'utilisateur en lui disant, bon, mais si tu ne veux pas payer, si tu veux sortir de l'environnement Apple, voici une adresse web, tu y vas, et là, soit tu payes pas de commission, soit tu payes la commission beaucoup moindre, et c'est vu directement avec l'éditeur de l'application. Et Apple, n'aime pas trop ça, parce que derrière, il y a un très gros chiffre d'affaires.
Mais Apple
dit qu'il y a une histoire de sécurité,
malgré tout, Apple piste toutes ses applications, même qui ne passent pas par son store, parce qu'ils l'ont dit, répété, je le disais tout à l'heure, dès que une application, même dans un store alternatif, a été téléchargée plus d'un million de fois,
tu payes.
Eh bien, voilà, vous passez à la banque et vous êtes obligé de donner 50 centimes d'euros à Apple pour chaque téléchargement supplémentaire.
Mais ça, c'est les règles, en tout cas, qu'Apple a décidé de mettre à la Commission européenne.
Et c'est que l'Europe conteste.
Voilà, en tout cas, moi, ce qui me fait un petit peu peur là-dedans, c'est super que la Commission européenne fasse ça, mais J'ai peur qu'il y ait déjà du lobbying et que finalement le texte définitif, parce que le plus important, c'est l'expérience utilisateur, c'est-à-dire la simplicité d'usage. Si, comme tu le disais, l'utilisateur est obligé d'aller à l'extérieur, etc. Ah ben là,
pour Google, c'est ça, hein, aujourd'hui.
Alors qu'ils auraient simplement dû, dans l'application même, au lieu de payer via l'Apple Store, tu payes en mettant une carte bleue directement dans l'application. Comme ça, t'as même pas besoin de sortir et d'aller sur le web, etc. Et donc, j'espère que ça va pas être qu'un effet d'annonce et dans le texte définitif, et il n'y a pas plein de petits détails qui vont détruire complètement l'expérience utilisateur. Parce que si à la fin, la commission dira, ben voilà, on a réussi à faire passer un texte, mais nous, fabricants d'applications, on se retrouve avec quelque chose qui est tellement impossible à naviguer pour les utilisateurs, on ne le fera pas. Mais c'est vrai que c'est une perte à gagner gigantesque. Je veux dire, moi, on doit donner, avec OnOff, à peu près, on a à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, la moitié est chez Apple, et donc 30% partent.
Donc tu donnes au moins 3 millions d'euros par an à Apple.
Exactement.
Mais est-ce que tu es content de donner cet argent à Apple? Quand je dis ça, est-ce que c'est de l'argent mérité parce qu'il t'emmène de nouveaux clients et que cette expérience utilisateur permet peut-être à de nouveaux clients de t'abonner?
Oui et non. Il y a quand même un truc qui est incroyable avec Apple, c'est qu'il y a une vraie qualité de service. C'est-à-dire qu'ils font attention que les applications, je veux dire, nous, comme tout utilisateur, quand on télécharge une application sur l'Apple Store, généralement, c'est pas des applications de fraude. On se sent en confiance. Ils font vraiment attention à la data. Donc, bien sûr qu'ils proposent un service et ils ont fabriqué un store qui est incroyable. C'est eux qui ont inventé les stores. Donc, bien sûr, c'est normal qu'ils soient payés. Après, quand on est 30%, c'est peut-être beaucoup.
Parce que toi, tu fonctionnes par abonnement, on est d'accord.
Par abonnement, et je vous dis, par exemple,
donc c'est
sportif,
5 euros ou 15 euros, je
entre
crois.
5, on a plusieurs abonnements, mais c'est 5, ça peut monter à jusqu'à 8 pour le B2C, et après 49 euros pour le B2B. Mais,
donc à chaque fois, si tu souscris par l'iPhone, 30% de cette somme va chez Apple.
Exactement.
Tous les mois.
Tous les mois.
Tous les mois.
Tous les mois.
Même si l'abonné reste abonné pendant 2-3 ans
Non. Au bout d'un an, ça se réduit à 15%.
OK.
Mais vous voyez, quand on fait une comparaison avec, par exemple, d'autres métiers, comme le sport, moi étant sportif, tous les contrats de pub que j'avais avec des agents, généralement, dans le foot, par exemple, c'est 10%. Ça peut aller jusqu'à 20% si l'agent t'apporte le contrat mirobolant que le sportif ne peut jamais avoir.
Parce que c'est du travail et parce que voilà.
Mais pas 30%.
Il le mérite, ces 20%.
Voilà. Une commission de 30%, on peut le regarder sur tous les plus grands sportifs de la planète, ça n'existe pas. Mm-hmm. Donc, c'est juste la quantité de la
commission. Non, mais les 30%, en fait, ils ont été positionnés de manière quasiment arbitraire, on va dire, parce que Apple ayant créé
Apple
son propre marché,
c'est 30%.
Ben, enfin, imposé. À l'origine, ils ont ouvert un store, et ils ont dit voilà, si vous voulez mettre des applications dessus, nous on gère tout, de A à Z.
Et puis lancer un nouveau business aussi.
Et à l'époque, il n'y avait aucun référent.
Non.
Ok, 30%, 20, 15, 10. Bon, voilà, tu es donc 30. 30, ok, allez. Très bien. Et c'est devenu l'élément, marqueur, puisque Apple, Google a suivi derrière, et ainsi de suite. Donc ils ont mis, on va dire, une marche dans le. Ils ont cranté une marche dans le marché. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est vachement difficile de revenir en arrière.
Surtout que ça leur génère du chiffre d'affaires, de la croissance.
C'est une mécanique incroyable qu'adore Tim Cook, qui est cette mécanique récurrente de générer de l'argent. Les concurrents en face font pareil, donc finalement, le système est verrouillé. Et puis voilà, et puis, effectivement, les développeurs.
Là où c'est un peu pervers, parce que je comprends que par exemple, Apple pourrait te dire, ou Google, ils peuvent te dire, dans l'application, si vous voulez avoir une simplification d'usage, vous pouvez payer en un clic avec votre compte Apple. Par contre, les utilisateurs, nous, on aurait au moins voulu pouvoir mettre un texte qui dit si vous ne voulez pas payer avec votre compte Apple,
mettez votre carte bancaire.
Vous pouvez, vous pouvez aller sur notre site internet et payer là-bas. Alors que rien que ce petit texte, cette petite phrase, c'est interdite. Ouais. Donc c'est même pas un lien, c'est une phrase qui dit.
C'est ce qu'ils appellent le anti-steering, anti-guide. C'est-à-dire, ils veulent pas guider l'utilisateur.
En fait, ils t'enferment dans leur bulle.
C'est même pas de mettre un lien, c'est pire que ça. C'est-à-dire que tu n'as même pas le droit
de signaler.
De le signaler que tu peux payer ailleurs.
Conclusion,
tu
arrives à des choses comme, par exemple, les applications Netflix, prenons cet exemple. Tu ne peux pas t'abonner à Netflix, ce n'est qu'un outil de consommation de contenu. Donc, autrement dit, il faut que tu passes sur leur site web pour pouvoir s'abonner.
Mais tu peux le faire que quand tu es Netflix, parce que quand tu es un utilisateur et que tu vas absolument Netflix, quand tu télécharges l'application, tu n'arrives pas à t'inscrire.
C'est pas grave,
je vais sur le web.
Mais quand tu es une application plus petite, moins connue,
exactement,
tu risques de te couper de ta.
Tout de suite, ça marche pas, tu dis bah.
Est-ce que tu vends plus cher tes services en passant par l'iPhone que si tu t'abonnes sur le web?
Alors, d'une façon... sur le web, on fait une petite réduction. Oui, exactement. On vend un peu moins cher sur le web.
D'accord. Donc, pour récompenser les personnes, parce que toi, tu gagneras plus d'argent.
Mais exactement.
Les consommateurs paieront le service un petit peu moins cher.
Exactement.
Mais tu ne peux pas en informer.
Attention,
tu peux en informer l'utilisateur si tu leur envoies un mail en direct.
Oui, voilà.
Si tu connais cet utilisateur, tu lui envoies un mail en direct en disant, tiens, on fait une super promotion si tu te... Mais l'utilisateur est obligé de se désinscrire.
C'est compliqué.
D'annuler son abonnement récurrent tous les mois sur Apple Store.
Il ne le fera pas.
Pour aller et t'auras.
Après, d'un autre côté, moi, je comprends qu'Apple se. Enfin, je comprends qu'Apple. Évidemment, Apple va se défendre parce qu'il y a du chiffre à faire derrière, il y a de la technologie, il y a quand même toute cette partie de sécurité.
Sécurité, hein. Qualité
de service. C'est vrai qu'on part sur un site web. On offre, bien entendu, tout ça est sécurisé, mais il y a d'autres sites qui le sont beaucoup moins. C'est-à-dire, on voit même des sites, quand on voit tous les piratages qu'il y a, des sites d'État et tout ça qui le sont moins. Donc voilà, c'est il y a quand même cette sécurité là. Après, comme tu dis, c'est peut-être le côté des 30% qui est un peu trop.
Moi, ce qui me fait peur avec la Commission européenne, c'est que si ils obligent d'avoir un store alternatif, que ce store alternatif, finalement, personne l'utilise parce que la sécurité n'est pas là, l'expérience utilisateur n'est pas là, etc., etc. Et donc finalement, les fabricants d'app, ils sauront qu'ils n'auront pas le choix parce qu'ils vendront plus sur
le truc qui risque, l'effet, on va dire, vicieux qui peut se passer, c'est le fait de dire qu'à vouloir respecter à la lettre les règles, on décourage les consommateurs ou les utilisateurs à vouloir utiliser ces règles-là. Qui est à la base, on va dire, une ouverture. Le fait de pouvoir se dire, je peux choisir mon navigateur ou je peux ne plus avoir une puce RFID bridée, par exemple, et qui fait que je vais pouvoir utiliser autre chose que Apple Pay, par exemple. D'ailleurs, il y a beaucoup de banques qui commencent à se dire, ah ben chouette, je vais pouvoir arrêter enfin de payer les X% aussi qu'ils payent à chaque fois qu'on utilise le système Apple Pay. Ça a du bon d'un certain côté, mais de l'autre côté, il est logique que des acteurs comme Apple, et c'est pas les seuls, on pourrait parler de Facebook aussi, vont tout faire et déployer des trésors de créativité pour arriver à contourner le système, à rentrer dans chaque petite faille et faire en sorte que justement, ça décourage l'utilisateur final, qui au final va dire, je suis bien dans mon système finalement, ça va.
Et c'est pour ça que les gens qui font passer ces lois, en tout cas à la Commission européenne, j'ai peur qu'ils sont, ce sont pas, on va dire, des jeunes qui sont avec leur téléphone toute la journée et qui sachent vraiment comment donner le meilleur.
Mais tu vois, à la fois, je trouve franchement que l'approche de la Commission européenne, elle est bonne, parce qu'il est nécessaire au moment de mettre des règles.
Mettre des règles
à des acteurs qui tordent le bras à tous les acteurs du marché. Je prends l'exemple des banques, on n'en parle pas. Mais voilà, tu veux être sur Apple, ou même ça pourrait être pareil sur Google, il faut que tu passes par leur système.
Et à un moment. Et donc, une petite commission, infime à chaque fois, mais imaginez donc, au niveau de milliards de
transactions. Donc, je pense qu'il y a des règles pour permettre de déroger justement à ces mécaniques-là qui sont assez verrouillantes. Après, toute l'astuce, c'est de faire en sorte que justement ça ne devienne pas un contre-productif. Tu prenais l'exemple du navigateur de Microsoft à l'époque qui a été désolidarisé de Windows. Au final, qui a désinstallé vraiment Internet Explorer à l'époque? Pas grand monde.
Oui, mais au final, qui est le numéro un des navigateurs aujourd'hui? C'est Chrome.
Oui, parce qu'eux, ils l'ont laissé filer, on va dire.
Et puis avant Chrome, c'était Firefox. Je pense quand même que c'est un peu bouleversé.
Mozilla, ouais. Ça peut faire bouger.
Ça a bouleversé, ça fait bouger les lignes. C'est clair.
Pas le contraire.
Ce qui est intéressant, c'est que donc, cette enquête est lancée. Reste à savoir combien de temps ça va prendre.
Enfin, il y a plusieurs enquêtes. Ils ont lancé plusieurs enquêtes.
C'est vrai que c'est quand le... la réponse.
Ils n'ont pas donné de date, là, en fait.
Non, ils ont dit que ça faisait des mois que ça, c'était l'implication depuis le 7 mars, qu'ils avaient donné des mois pour eux de se retourner. Et puis, ils ont dit tout ce qui n'allait pas. Donc, ils attendent une deuxième version. Ils n'ont pas donné de date. Par contre, ils ont rappelé les 10%, 20%, les amendes qui pourraient tomber. Voire plus loin, ils disent, on peut même aller, alors, ils ne disent pas démantèlement, mais ils disent à séparer des services, voire à les bloquer.
En tout cas, pour reprendre le cas d'Apple, ils ont fait un truc par exemple incroyable, c'est que dans beaucoup d'apps, on était traqué, les apps nous traquaient avec la pub, etc. Oui. Et donc ils ont bloqué, ça c'est super pour les utilisateurs.
Ouais. Pour Meta, c'était bon.
C'est vrai, Meta n'a pas été content.
Meta n'a pas aimé, mais c'est vrai que pour les utilisateurs, c'est évidemment c'est important. Juste un mot encore sur cette enquête, c'est Meta qui est visé aussi. Je le disais tout à l'heure, parce que Meta a été obligé de proposer une version payante du service Facebook pour ne plus avoir de publicité, 10€ par mois. Alors bien évidemment, personne n'est prêt à payer 10€ par mois pour ne plus avoir de pub sur Facebook, c'est clair. L'Union Européenne a un peu tapé sur les doigts de Meta en leur disant, écoutez, faites un effort parce qu'à 10€, c'est pas bon. Ils sont passés à 5€ et visiblement, ça ne suffit pas puisqu'il y a encore cette enquête. Parce que en fait, ils estiment que Meta est un service gratuit financé par la publicité et le seul moyen que tu as d'éviter la publicité, c'est de payer 5€ par mois et que c'est complètement, on va dire, discriminant en quelque sorte.
Moi ça me choque pas du tout en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que je paye par exemple sur YouTube. C'est un cas d'usage très différent, mais le fait de payer sur YouTube,
ça a une vraie valeur ajoutée sur YouTube parce que la pub tout le temps.
T'as de la pub tout le temps. Mais quand je regarde sur les navigateurs de copains, je me dis, mais comment ils font pour regarder YouTube? Tu deviens dingue. Alors, c'est vrai que sur Facebook, peut-être, il n'y a pas tant de pubs que ça. Sur Instagram, par exemple.
Sur Facebook, la pub, tu peux la scroller. Tu es plus souvent sur YouTube que sur Facebook.
Non, mais t'as la question quand même de l'exploitation des données personnelles, qui normalement devait être débrayée si tu payes, pour tout ou partie. Donc, qui est quand même le cœur du modèle économique de Facebook.
C'est-à-dire que Meta ne regarde plus tes données personnelles à partir du moment où tu payes.
Je suis sûr qu'ils ont une lettre d'excuse dans un coin qui disent que, on est désolé, mais on l'a fait.
Ils les conservent, mais ils ne peuvent pas les utiliser à des fins de publicité.
Voilà.
Tu as la nuance? Faire quoi alors si vous les conservez?
Jusqu'à ce que tu ne payes pas, je pense.
Sûrement dans la même app. Parce que quand sur Facebook, tu regardes par exemple un pote, tout de suite, comme par hasard, sur WhatsApp, on te propose le même pote ou un truc comme ça.
Oui, il y a plein de trucs comme ça.
Le truc, c'est que ça pose quand même une question de fond. C'est que ça remet en cause aussi le modèle économique de ces acteurs-là. Et c'est quand même compliqué de devoir changer de modèle économique. Donc, il y a une limite peut-être à l'exercice aussi du DMA-DSA, qui est à un moment, quand on veut demander à un Facebook finalement de proposer une autre solution, à un moment, on va dire, mais je gagne ma vie comme ça. Donc, je fais comment? Compliqué quand même. C'est pas évident.
Et après, ce qui manque aussi, c'est de savoir comment on fait pour avoir de la concurrence à côté. T'as Epic avec qui veut peut-être s'allier avec Microsoft, tout ça pour sortir un autre magasin d'app. Tu as si on parle des réseaux sociaux, mais si on décide de taxer, allez, si on va à l'extrême de fermer Instagram, Facebook et tout ça, on va aller où?
Ah mais Fred, enfin, toi qui aimes bien, qui aimerais avoir un réseau social français ou européen, Spotify.
Mais voilà,
c'est une chance,
Vous n'allez pas vous y mettre tous les deux quand
c'est
même.
C'est une chance extraordinaire
mais
pour eux quand
bataille.
Même.
Moi, j'arrête pas de dire, faut que Spotify devienne le réseau.
Ah mais le DSA DMA peut être une vraie chance pour eux pour essayer d'avoir des règles plus claires vis-à-vis d'acteurs comme d'autres sortes de musique.
C'est là où si l'Europe pouvait aller plus loin, ce serait d'accompagner certains acteurs européens à justement voir comment les pousser un peu, puis jouer un peu la carte Europe.
Après, il y a en tout cas une des expériences que je ressens en utilisant ces réseaux sociaux, c'est que par exemple, quand je regarde les pubs qu'on me suggère sur Instagram, elles ne me dérangent pas, parce qu'elles sont extrêmement belles, elles sont extrêmement qualitatives.
Et elles se sont ciblées.
Et elles me sont ciblées. Mais sur Facebook, elles me sont sûrement ciblées, mais c'est des pubs, désolé, mais vraiment pas bien, quoi.
Ouais.
Et donc, en fait, sur Instagram, la pub ne me dérange pas du tout. Sur Facebook, elle me dérange beaucoup. Et sur YouTube, c'est même pas la peine. Donc, ça, c'est un sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces marques qui ont besoin de vendre des trucs à la con et qui ont besoin d'exister?
Ouais, c'est clair. Tiens, on parlait de Spotify. Vous avez vu que Spotify propose un nouveau service depuis quelques jours. Des cours en vidéo.
Des cours en vidéo, oui.
Voilà. Alors, pour apprendre la musique, pour apprendre la danse, voilà. Alors, ça peut être pour être créatif, mode de vie sain, des cours de
c'est
sport.
C'est pas la première
aussi.
Fois que Spotify fait des essais de vidéo pour essayer de rentrer, pour essayer d'élargir son marché, pas rester uniquement sur le.
Ne pas rester que sur la musique en streaming.
Voilà.
Il est hautement concurrencé.
Surtout que le rapport à la vidéo aussi n'a pas. Enfin, tu n'as pas le même rapport au sens où la vidéo, tu restes dessus, par définition. Alors que l'audio, tu vas l'écouter un peu de manière passive. Donc, tu as un rapport à l'utilisateur et à son temps d'attention qui est très différent. Spotify essaie depuis un petit moment. Hein. Ils cherchent les podcasts. Ils avaient beaucoup investi aussi. Ils ont fermé.
Ils ont investi fortement dans Be Real.
Tout à fait.
Le réseau social un peu instantané. Bon.
Ouais, mais pour faire quoi?
Ils ont investi dedans, je sais pas.
Ouais, mais bon, pour l'instant.
Ils cherchent une réinvention de leur modèle, très clairement. Spotify, ils cherchent ça. Ils l'ont pas encore touché.
Ils essaient de sortir des griffes de la concurrence d'Apple Music, d'Amazon, qui ont des crédits illimités pour. Engendrer de nouveaux abonnés parce qu'ils ont tout un écosystème.
Oui, tout à fait.
Oui, et puis que, voilà. Et puis eux, c'est pas leur cœur de métier. Hein.
Et à la fois, t'as un YouTube. Tu disais que tu payais pour YouTube. T'as YouTube Music, donc qui va avec, théoriquement. YouTube rentre sur le marché de la musique, donc logiquement un acteur comme Spotify doit se poser la question d'aller sur de la vidéo et de la musique, ou au moins la vidéo au sens large.
C'est vrai que le fait de payer sur YouTube pour ne plus avoir de pub, ça te donne aussi accès à YouTube Music, qui est un peu le Spotify de Google, finalement, avec énormément de titres, enfin tous les titres.
Ah mais ça marche très bien.
Pour compléter, pour revenir un peu sur le DMA, les accusations, il y a d'autres accusations qui tombent. Ils estiment que Apple, lorsqu'on est sur son téléphone, n'oriente pas suffisamment vers un autre moteur de recherche.
Oui,
voilà, par défaut, on devrait nous dire, tiens, voilà, les 5 moteurs de recherche, clique pour savoir lequel tu veux aller. Ils le font assez difficilement, donc les gens non avertis restent sur le même.
Il y a une raison à ça, tu le sais, hein, quand même. Enfin, c'est le gros chèque qu'a signé Google pour être le moteur par défaut de Safari. Donc
il y a ce genre de choses. Il y a Google qui est accusé aussi d'abus de position, qui renvoie via son moteur de recherche vers Google Fly, Google Hotel, tout son service, donc ça aussi il y a des choses qui nous paraissent assez évidentes, mais
il y a un truc également qui est important dans tous ces termes et conditions de tous ces stores, c'est que en quelque sorte ils ont un tel pouvoir qu'ils se réservent dans le contrat de décider de la mort ou de la vie de chaque application sur des textes qui peuvent être interprétés par eux à leur bonne convenance, et ça c'est un problème parce que à partir du moment où le texte il est écrit d'une façon suffisamment floue, et donc le Google ou Apple disent nous on estime que votre application va pas parce qu'on interprète le texte de cette façon-là, il faudrait que les textes soient plus précis et que la Commission européenne puisse aider là-dessus.
Toi, tu as dit que tu n'avais jamais eu des problèmes dans les mises à jour, par exemple.
Bien sûr.
Tu soumets une mise à jour, elle met un temps dingue à revenir, puis on te revient un truc. Ah ce truc-là, ça ne va pas. Mais, tu passes un dingue à un temps dingue.
J'ai eu un élément comme ça, et c'était marrant. Il m'a envoyé le texte qui était écrit en disant ça. Globalement, on se réserve le droit sur le design de dire que ça ressemble à des trucs qu'on fait nous-mêmes chez Apple. Et du coup.
Donc c'est pas possible.
C'est pas possible.
Oui. Mais imagine demain, Apple décide de lancer un service équivalent à un œuf. je dis n'importe quoi, mais demain ils se disent, ok, pour les utilisateurs d'iPhone, on propose 2, 3, 4 numéros de téléphone avec une seule carte SIM.
Bien sûr, mais c'est...
Il tue ton concept, mais d'une manière...
Bien sûr,
en tout cas, les utilisateurs sur iPhone, ils ne tuent pas ton concept dans sa globalité,
bien sûr.
Mais comme ils vont pusher eux-mêmes leur service en priorité aux utilisateurs d'iPhone, t'es cuit.
Alors, oui et non.
Ils en ont eu quand même pas mal comme ça. Hein.
Oui,
c'est pas les seuls, d'ailleurs.
Ouais. Oui et non. Je vais te dire pourquoi. C'est que même quelque chose que j'ai pris de l'autre côté du revers de la médaille, c'est qu'une société comme Apple n'est pas opérateur télécom. Donc, ils ne peuvent pas avoir de tranche de numéro. Et donc, moi, j'ai fait, au contraire, l'effet inverse. J'ai dit à Apple, et j'ai contacté des gens d'Apple, et pas que Apple, hein, plein d'autres sociétés, comme WhatsApp, etc.
Oui, oui. Je leur ai dit, faisons un deal ensemble.
On fait un deal ensemble. Vous avez les clients et vous avez la facilité en un clic d'acheter un deuxième numéro.
Moi, je suis votre fournisseur de marque blanche.
Exactement, je suis votre fournisseur. Mais ils l'ont pas fait.
Ils n'ont pas répondu.
Non, pas encore. On verra. En tout cas, mais il y a, par exemple, là, vous avez peut-être vu aujourd'hui, il y a eu la mise à jour sur Revolut.
Mmh. Oui, ils
proposent l'eSIM.
L'eSIM. Donc il y en a et ils peuvent le faire.
Et pourquoi ils font ça en fait? C'est un service supplémentaire pour conserver des clients.
C'est parce que. Alors pourquoi?
Pour peut-être diversifier leur modèle économique.
Revolut ne gagne pas beaucoup d'argent sur leur modèle bancaire. Ils gagnent de l'argent sur tous les services qu'ils proposent autour.
Et puis Revolut a une clientèle de gens qui voyagent beaucoup, parce que la base de Revolut, c'était il n'y a pas de frais. Quand tu allais à l'étranger, il n'y avait pas de frais. Donc ils se sont vraiment constitué une base de gens qui voyagent beaucoup, qui payent à l'étranger. Donc là, la suite logique, c'est de dire, on vous met le forfait qui va bien quand vous partez à l'étranger.
Vous allez payer à l'étranger, vous allez téléphoner avec nous aussi.
Et c'est les one-stop shop.
Et les eSIM de data sont en train d'exploser. Il y a deux, trois applications là, qui sont super connues là-dessus.
Mais tu vois, ce qu'on dit là, c'est là aussi la Commission européenne devrait rentrer un peu plus dans le détail. Parce qu'on a tous eu, hein, dans nos entourages, des gens qui... moi, j'en ai encore eu un le mois dernier. Des gens qui ont lancé une appli qui dit « Tu connais pas quelqu'un chez Apple parce que je suis bloqué. Je sais pas pourquoi. Ouais. » Alors, l'autre jour, c'était une personne parce qu'il refusait sa photocopie de... Enfin, son identification. Il refusait. Vous savez pas pourquoi. Donc, ça bloquait la mise à niveau de la mise dans le store de l'application. Il savait pas pourquoi.
Mais t'as ça aussi chez Google, t'as ça chez la plupart des acteurs.
Non, mais la Commission européenne, elle devrait descendre aussi un peu plus en détail parfois que de rester en superficie.
En une seconde. Ouais. L'année dernière, sans aucune raison, je veux dire, j'avais même pas utilisé, j'avais pas envoyé de message, j'avais rien posté, rien, aucune raison, mon compte. Facebook, Instagram et WhatsApp bloqués.
Alors tu sais quoi?
Impossible de les utiliser.
Attends. Tu vas nous raconter la fin juste après les infos.
Ok.
Parce que les gens là sont bloqués. Ils sont obligés.
Oh, le cliffhanger, le truc.
C'est pas obligé de connaître la suite de cette histoire. T'as écrit, ça a été bloqué sur Insta, quoi. C'est l'info du jour. Tu vas nous expliquer comment tu t'es débloqué de cette situation.
Ah, c'est vrai.
Ça vaut le coup, hein, de rester. Ah, voilà.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'actu tech, vous le savez, chaque soir, Tech & Co, la quotidienne, c'est une heure de débrief de 20h à 21h avec les meilleurs experts qui sont là et qui commentent l'actualité. Ce soir, Taïk Riss est avec nous, fondateur de On Off, Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil Lab 36, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Je sais que vous attendez avec impatience le dénouement de l'histoire de Taïk Riss.
Elle n'est pas extraordinaire.
Elle n'est pas extraordinaire, mais quand même, ça nous est peut-être tous arrivé.
C'est arrivé déjà à plein de copains dernièrement.
T'étais sur tes réseaux Meta et d'un coup, paf, plus rien.
Déconnecté. Donc j'ai été log out sur tous mes réseaux Meta et impossible de me connecter, impossible de contacter Meta. Et du coup, j'ai essayé pendant des semaines.
Ah, des semaines quand même.
Ça a duré des semaines.
Je crois pendant un mois et demi, j'avais plus de réseaux sociaux, je pouvais plus. Et je suis arrivé dans une situation où je me suis dit, je ne peux plus récupérer mes comptes. Et c'était vraiment un bug.
Ça t'a fait du bien ou pas?
Je les utilisais pas d'une façon extrême.
Ouais, mais c'est toujours quand on ne les a pas qu'on a envie de les utiliser.
Ouais, c'est hyper frustrant. Et donc j'ai heureusement eu la chance de croiser Laurent Soli un jour.
Ouais.
Et du coup, je lui ai envoyé un mail et il a été extraordinaire. Il a lu mon mail et il m'a débloqué.
Est-ce que tu sais ce qui s'était passé?
Il m'a pas dit, mais je pense que c'est un bug parce que c'est arrivé pendant les mêmes mois à trois copains différents.
D'accord.
Et c'était sur aucune action puisque j'avais rien posté, j'avais rien quoi. Un matin, je me suis réveillé, impossible de me connecter.
Bon, si vous avez
je pense que c'était une sorte d'IA qui, je ne sais pas pourquoi, a dû bloquer les comptes.
Ouais, peut-être que tu as été banni pour une raison ou pour une autre. Exactement. Enfin, ça arrive hein, parfois. Hein. Donc si vous l'avez compris, si tout comme Taï Chris, vous n'avez plus de compte Meta, vous appelez Laurent Soli, son mobile, tu peux le donner. Le téléphone qui sonne toute la journée.
Laurent.soli@.
C'est ça. Allez, plus sérieusement, on quitte Meta pour s'intéresser à iOS. iOS 18 va être la nouvelle mouture du système d'exploitation sur iPhone et sur iPad. Il arrivera à la rentrée prochaine. Et on attend beaucoup de cette nouvelle version d'iOS qui devrait être assez innovante, avec beaucoup d'intelligence artificielle. En tout cas, c'est ce qu'Apple dit. Parce que, alors quand on creuse un petit peu, on se rend compte que l'iPhone 16, qui devrait sortir en même temps, ne devrait pas être si révolutionnaire que ça, en fait. Il n'y a pas énormément d'innovation. Donc ils se disent, on va sortir un téléphone qui ressemble beaucoup au 15, mais on va apporter iOS 18, qui va, voilà, apporter un peu plus de fonctionnalités et d'intelligence artificielle. Ce qu'a fait, en fait, Samsung avec le S24. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le Galaxy S24 n'est pas... Franchement, il n'y a pas beaucoup de différence avec le S23, mais en revanche, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui fait qu'on a l'impression d'avoir un téléphone plus récent, avec plus de fonctionnalités. Ça serait à peu près le même schéma qui se dessinerait pour Apple, sauf que Apple, visiblement, n'aurait pas son IA de prête. On sait qu'ils travaillent beaucoup hein, dessus, mais elle ne serait pas prête pour dans les mois qui viennent. Hein. Et donc, ils se tournent vers des partenaires potentiels. On a évoqué la semaine dernière Google et Gemini. Et là, on aurait peut-être aussi Anthropic et Claude qui interviendraient dans l'iPhone. C'est assez étonnant, non, Damien, de voir comme ça Apple essayer de trouver des partenaires, pas forcément les meilleurs potes aussi d'Apple. Hein. Alors, on sait que Google et Apple ont des relations, on va dire, professionnelles de bonne qualité, mais aussi, ce sont des concurrents sur pas mal de domaines.
Oui, mais ils sont quand même depuis de longues dates, on va dire, des acteurs aussi qui se parlent et qui font des choses ensemble. On parlait tout à l'heure de moteur de recherche. Hein. Google a quand même signé un chèque de 18 milliards hein, pour être le moteur de recherche de référence de Safari. Il y a toujours plein de choses entre eux deux, ça fonctionne bien. La question de fond, il y a toujours eu de l'IA chez Google, chez Apple, pardon. Il y a toujours, hein. Il y a de l'IA. Aujourd'hui, si je prends j'ai mon iPhone 15, par exemple. Si je vais dans mes photos et que je tape, par exemple, une photo relative à, je sais pas, une voiture, un arbre, un chien, il va me sortir la photo. Donc ça, c'est de l'IA. La question qu'on se pose plutôt, c'est la question de l'IA générative, qui est le sujet du moment.
ChatGPT, quoi. Voilà. Est-ce que ChatGPT va arriver dans
l'iPhone ? Et qui, en gros, pose la question des interactions qu'on peut avoir avec un téléphone. Et bien sûr, on pense à Siri, qui n'a pas évolué, mais que c'est pas la seul d'ailleurs, hein. Je veux dire, si on prend Alexa ou Google Assistant, c'est pas mieux. Hein. Qui a pas vraiment
d'ailleurs, Amazon a réagi et a dit qu'ils allaient faire évoluer leur Alexa avec de l'IA générative dans les semaines.
Ils ont fait une démonstration il y a un an et des brouettes de ce sujet-là, c'est pas arrivé encore, mais ils ont annoncé effectivement des mises à jour. Ouais. Donc la question de fond, c'est comment Apple va intégrer cette notion d'IA générative pour donner quelque chose de plus poussé. De l'IA, ils en ont déjà. Les ingénieurs, ils les ont déjà. Ils ont racheté des petites boîtes. La question, c'est est-ce qu'ils ont besoin d'un moteur de LLM, donc un moteur de langage pour pouvoir faire autre chose ? Apparemment, ce serait pas prêt, d'où le fait qu'ils seraient en train de discuter avec des Google ou des Anthropic sur le sujet. Après, la question de fond, c'est qu'il y a deux choses à avoir en tête. Un, Apple a besoin d'un acteur mondial pour pouvoir tenir la charge. Donc, avoir un acteur qui puisse vraiment déployer tout de suite. Et il n'a pas 36. Sur le marché. Si on enlève Microsoft, etc.
Il y avait OpenAI.
C'est Microsoft, oui, OpenAI. Donc voilà. Et puis deuxième élément, Apple fait toujours les choses différemment des autres. Donc ils vont pas faire un moteur de LLM au sens je vais dialoguer. Ils vont intégrer différemment l'IA pour que finalement l'IA ne soit pas présente de visu dans l'appareil, mais serve. Et la question c'est sur quoi ils vont appuyer pour que ça serve.
À mon avis. Ça va ressembler. Alors peut-être je m'avance énormément parce que j'en sais rien. C'est juste un sentiment personnel. Mais je sais pas si vous avez vu passer ce boîtier, je crois chinois, d'une boîte qui s'appelait Rabbit ou à mon avis, ça va aller là-dessus.
Et pas chinois d'ailleurs. Hein. Peut-être chinois. C'est une start-up californienne.
C'est une start-up californienne. Mais en tout cas.
Le héros discret du dernier CES.
Ouais.
C'est-à-dire que c'était. On parlait que de ça, mais.
Personne l'a vu.
Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour utiliser une multitude de services, il y a chaque fois une app. Génial. Mais en tant qu'utilisateur, on est là à devoir taper tout le temps pour sélectionner son billet d'avion, taper tout le temps pour sélectionner son Uber, pour avoir son Deliveroo. Donc on passe du temps sur les écrans de toutes ces applications. Apple a le pouvoir de dire à tous ses fabricants d'applications, vous savez quoi, maintenant...
Au revoir.
Au revoir. Globalement, j'ai dans le code des applications que vous allez soumettre, je veux avoir une sorte de backdoor qui me permet via une IA de commander
de piloter
en direct
votre appli.
Mais attends. Voilà. S'ils font ça, il y aura une vraie rupture.
Aujourd'hui, tu peux dire, mais il faut le faire, hein, à Siri, je veux lancer on-off ou je veux ouvrir, etc. Donc, mais il faut le programmer, il faut le faire, voilà, etc. C'est pas... on est d'accord ? Oui, on pourrait imaginer que demain, ce soit d'office, une sorte d'agent intelligent, où tu demandes à dire, bah, si je fais ça, finalement, il y a un enchaînement de tâches. Je veux manger ce soir de la pizza et le système va être capable de le faire. C'est pas idiot, j'aime bien.
Le seul souci, c'est pas un souci pour Apple, mais c'est pour les autres, c'est les data derrière. Ces data, elles sont où? Elles sont chez Apple, elles sont chez Uber, chez tout ça. Parce que c'est là où ça va être un peu tendancieux. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont accepter que.
La bataille des data sur le fait de d'ouvrir ton.
Ah oui,
ton
parce que là, c'est une bonne idée de faire les backdoors, mais voilà, savoir ce que aime commander, où aime commander son VTC, à quelle date, enfin, toutes tes habitudes de consommation, qui est-ce qui récupère ces données, est-ce que ça va aller à chaque. Ça m'étonnerait que ça aille à chaque fois chez Uber Eats, chez. Parce que là, Apple a accès à ces data, donc c'est là où je trouve que la stratégie de certains de laisser ces. Enfin, si c'était ça. Ce qui n'est pas bête, ce serait un peu dangereux.
Peut-être, mais ils ont la force ou ils auraient la possibilité de te tordre le bras, de te dire ça va vous amener le business parce qu'on va vous amener.
Voilà, ils vont peut-être trouver quelque chose, un moyen. On s'avance énormément, mais un moyen pour rétrocéder, je ne sais pas comment. Mais au final, la stratégie toujours d'Apple, c'est de faire quelque chose de très innovant qui améliore l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, la réalité, c'est que nous tous utilisateurs, on passe du temps sur des applis toute la journée à commander des trucs et à faire des trucs.
Ça sera la vraie révolution, en fait.
Mais de toute façon, c'est ce qu'a dit Bill Gates. Bill Gates, il a dit il y a deux ans à peu près, ou il y a un an, non, quand OpenAI était déjà sorti, enfin quand ChatGPT était déjà sorti, il a dit de toute façon, on va arrêter. Un jour, on n'aura plus de navigateur, on n'aura plus de robots, tout ça. On parlera tout simplement et on aura, on lui dira, je vais aller en voyage au Brésil et il s'occupera de tout.
Avec après la question que ça pose, c'est vers quel acteur il va t'amener pour pouvoir choisir tes billets d'avion, de train.
Et la data autre. Derrière.
Et la data qui va derrière. Et les accords qui peuvent être liés aussi. Parce qu'aujourd'hui, sur leur habit, on ne sait pas du tout quel le type d'accord qu'il peut avoir avec quel acteur pour pouvoir t'amener
à moins que tu choisisses. Dès le départ,
peut-être
les acteurs que tu préfères. Mais
dans et là, on va boucler avec le DMA parce que si Apple négocie avec certains, il dit d'accord, je vous prends, mais ce sera 30%.
Oui, voilà, par exemple.
Aujourd'hui, un Deliveroo.
Et je vais récupérer 30% sur Booking.
Bien sûr. Un Deliveroo, quand vous commandez un burger en bas, Deliveroo, il vous prend une commission à vous, mais il prend également une commission au restaurant également, quoi. Mais
est-ce qu'Apple prend une commission sur Deliveroo ? Une bonne question, ça.
Comment ?
Ah, est-ce qu'Apple prend une commission sur Deliveroo à chaque
achat ? Oui, mais moins. Ouais. Moins, parce que c'est je crois que c'est la carte bleue.
Il y a, les 7%.
Une petite commission.
D'accord.
Okay. En tous les cas de figure, l'exemple que donne Taïg est super intéressant parce que oui, ce serait le type d'innovation d'usage de l'IA qui serait pertinent par rapport à l'état d'esprit d'Apple. Après, il y a un autre élément qu'il faut bien avoir en tête. Apple est super bon en IA. Prenez le Vision Pro. Le fait de pouvoir piloter de l'œil, de l'iris, de choisir l'application qu'on veut lancer avec les développeurs qui expliquent
comment il y avait. On parle d'IA générative.
Pardon ?
On parle d'IA
générative. D'accord, oui. Parce que je veux dire, il faut faire bien attention à ça. Il ne faut pas résumer l'histoire en dire Apple est à la rue sur l'IA. Non, Apple n'est pas à la rue sur l'IA. Il y a plein d'exemples qui prouvent ça. Je prends l'exemple de Vision Pro. Donc, il y a le côté préemptif, par exemple, du choix de l'application via uniquement l'iris, c'est de l'IA. En revanche, sur le côté génératif, LLM, etc. Là, aujourd'hui, apparemment,
c'est là où je dis qu'ils sont à la ramasse sur l'IA, parce que s'ils avaient des gars super bons en IA classique, ils seraient allés assez vite vers l'IA générative, et je pense qu'ils ont un vrai souci.
Fred, c'est toi qui nous disais une fois en plateau, je me rappelle que... tu avais su ou tu avais entendu dire que, en gros, c'était une direction non claire au sein de la société.
Il n'y a pas de gouvernance.
Qui faisait que, finalement, il n'y a pas de choix qui avait été
Il y a eu ceux qui travaillaient sur l'histoire de la voiture, il y a eu ceux qui travaillaient sur Siri, il y a ceux qui. Enfin voilà, et c'était pas très clair. À un moment, c'était la grande époque. Enfin, c'était l'esprit Apple aussi. À un moment, c'était lancer trois équipes sur un même projet, et puis on prendra le meilleur. Hein. C'était comme ça que fonctionnait Steve Jobs.
En plus, maintenant, les.
Mais aujourd'hui, ça. Enfin, en tout cas, sur l'IA, ça, si cette méthode marchait à une époque, ça marche plus aujourd'hui.
Et puis, t'as un autre élément, c'est que l'IA besoin de data. La question, c'est qu'aujourd'hui, les modèles ont besoin d'être entraînés avec des data. Or, le modèle d'Apple est très fermé pour plein de raisons, notamment la question de la confidentialité qui leur sert de publicité. Comment tu arrives à résoudre cette équation qui est
j'ai besoin de data pour nourrir... en anonymisant les données. Peut-être.
Peut-être. Dans tous les cas de figure, aujourd'hui, on le voit chez OpenAI, chez Anthropic, quoi, ils ont été pris la main dans le pot de confiture parce que bien souvent, ils sont allés chercher des données qui étaient copyrightées, qui avaient, etc., et qui étaient protégées et qui n'auraient pas dû être dans les modèles
d'entraînement. Mais ça va être intéressant de voir, lors de la prochaine WWDC, qui est la conférence des développeurs, comment Apple va communiquer sur l'IA générative et voir comment ils vont l'intégrer, parce que c'est toujours ça un peu la force d'Apple, c'est de rendre facile des trucs compliqués, et comment ils vont révolutionner l'ergonomie de l'IA avec l'iPhone en fait. C'est ça qui va être intéressant au-delà des partenaires qu'ils peuvent avoir avec Google et Claude, ça on s'en fout parce qu'ils sont tous bons en fait. Ça va être la manière dont Apple va intégrer tout ça dans le téléphone.
Ça va sûrement être Siri aussi, hein. Siri qui
sans
va,
doute sans doute
être, parce que aujourd'hui peut-être. Par rapport à un chat
moi j'aurais racheté Rabbit
Siri elle
j'avais été Apple
un peu honte
moi, je suis pas la seule hein, Alex.
Toutes les IA aujourd'hui le gros souci avec Apple, c'est que l'un de ses gros marchés c'est la chair, enfin en croissance, c'est la Chine. Et que la Chine, si on arrive sans IA ou sans une IA performante, à la façon dont sont en train de mettre en place les Huawei, les Xiaomi, les
Oppo... Tu passes un accord avec Baidu, et puis voilà. C'est un accord local.
Ah oui, bah. Voilà. Non, mais du coup, les Chinois, avoir un iPhone, super, mais quand on leur dit, ah oui, mais moi, mon iPhone Xiaomi, Huawei, voilà un peu ce qu'il fait, ah ben, bah, peut-être que... Et là, Apple, la croissance en Chine, donc il faut qu'ils aillent vite aussi sur ce côté IA, à mon avis.
Bon, on en saura plus, je pense, dans les semaines à venir, et en tout cas, lors de la WWDC, qu'on vous commentera bien sûr dans Tech & Co sur BFM Business, c'est en juin prochain. Dans l'actu aussi, vous savez qu'aujourd'hui, nos politiques aiment bien réagir sur l'actualité de la tech. alors, on avait eu Najat Vallaud-Belkacem il y a quelques jours de cela, qui avait dit, ben voilà, il faut un Internet frugal, donc il faudrait qu'on décide d'un maximum de gigas par semaine qu'on pourrait dépenser. Elle avait sorti 3 gigas comme ça, mais bon... même si l'idée est sympathique à débattre, et d'ailleurs sur BFM TV ils en ont beaucoup débattu, c'est 3 gigas quoi, en 4G, en 5G, en Wi-Fi, enfin on sait pas trop quoi finalement. Mais alors bon, il y a eu cette piste qui a été proposée la semaine dernière, et puis il y a Paul Midi aussi qui a publié dans un autre domaine, vous allez le voir, une tribune hier qui a été signée par 125 autres parlementaires de la majorité demandant la fin de l'anonymat sur Internet. Et le député Renaissance souhaite en fait répertorier chaque utilisateur sous une plaque d'immatriculation sur le modèle de l'identité numérique de la Poste, ou de France Identité, notamment. Il était l'invité de Télématin ce matin, justement, et on l'écoute et on revient juste après.
Vous pourriez garder l'anonymat vis-à-vis des autres usagers, ce qu'on appelle le pseudonymat.
D'accord, donc m'appeler par exemple Marie du 16.
Voilà, moi je peux avoir un compte Polo91 avec la photo de mon chat, pas de problème. Okay. Je mets les informations que je veux. Je suis sous pseudonymat, je suis anonyme vis-à-vis des autres usagers. Par contre, je ne suis pas anonyme vis-à-vis de la police et de la justice si jamais je fais quelque chose de très illégal. Ça veut dire, vous avez créé une identité numérique, il y a des millions de Français qui ont créé une identité numérique avec La Poste, par exemple, ou avec France Identité, et vous utilisez cette identité numérique pour lier cette identité à votre compte sur le réseau social. Il y a par exemple un réseau social qui le fait, qui s'appelle LinkedIn, où vous pouvez vérifier votre identité avec un tiers de confiance qui fait le lien entre votre identité et le réseau social, parce qu'on ne veut pas que le réseau social ait, lui, votre identité.
Bien sûr.
Il est votre pièce d'identité, mais par contre, il a reçu une information qui est que vous êtes bien une personne physique et qu'il a associé à votre compte une identité numérique.
Frédéric Simotel est énervé, mesdames, messieurs. Il bougonnait.
Il n'est pas le seul sur le plateau
pendant
aujourd'hui.
Pendant ce son, Damien aussi. Fred, parce que Paul Midi, tu as beaucoup d'estime pour ce monsieur.
Oui, bah, j'ai croisé
quelqu'un.
Et même à un moment, j'imaginais que ce serait lui le potentiel ministre
secrétaire d'État
au numérique, parce qu'il avait pas mal d'idées. Mais là, je pense qu'il se fourvoie complètement dans cette histoire d'anonymisation.
On raconte l'histoire. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des abus sur les réseaux sociaux, désinformation, harcèlement, souvent c'est derrière des pseudos, on ne sait pas qui parle, et effectivement comme il y a cette pseudo-anonymat sur Internet, ben des gens font n'importe quoi, hein, ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils sont vraiment, hein, sur les réseaux sociaux, propos haineux, racistes, enfin, etc. C'est un problème, c'est vrai qu'il faut essayer de trouver une solution, Mais de là, non, mais, à se loguer la solution, sur Internet avec France, enfin La Poste ou France Identité, c'est un peu.
Moi, je pense que Paul Midi, un très bon ancien consultant McKinsey, a manifestement été en mission pour essayer de vendre la solution de La Poste, qui est très bien d'ailleurs, soit en passant. Mais
Il n'a pas dit, il n'a pas cité que La Poste.
Oui, il a dit aussi France Identité, voilà, qui est celle que j'ai dans mon téléphone d'ailleurs.
Bien sûr, bien sûr.
Non, mais la blague. Voilà. Non, mais sérieusement, l'anonymat, le pseudonymat, c'est l'obsession numérique des politiques chaque année. Moi, je fais, tu sais, le podcast des clairs numériques. L'année dernière, exactement cette année, on a fait un épisode sur le sujet parce que c'était déjà sorti.
Il y a ça, et la minorité, enfin la majorité sur Internet.
Oui,
en fait, les mineurs d'aller sur les
l'anonymat sur Internet n'existe pas. Voilà, on va le redire. L'anonymat sur Internet n'existe pas parce que tout ce qu'il a dit sur le fait de dire on peut me retrouver, etc., c'est déjà inscrit dans la loi. Oui. C'est possible. Aujourd'hui, les FAI collaborent, les VPN collaborent avec la justice et la police s'il y a nécessité de retrouver quelqu'un. Et en plus,
alors,
de
attends,
ça.
Excuse-moi, je te coupe parce que c'est important ce que tu dis.
Désolé.
Aujourd'hui.
Désolé.
À tes souhaits.
Merci.
Non, mais c'est le soleil qui te fait ça, je pense. Aujourd'hui, je sais pas, moi, je commence à te harceler, etc. J'ai un pseudo, n'importe lequel, qui n'a rien à voir avec ce que je suis. On peut savoir que c'est François Sorel qui a écrit ces messages.
Je porte plainte, je déclare qu'il y a un problème.
Justice, c'est pas vrai.
La justice peut. Alors, la justice, non, les plateformes aujourd'hui collaborent avec la justice. La justice peut demander tout simplement à la plateforme qui est derrière, et on peut te retrouver très facilement. Et c'est arrivé plein de fois.
Non, mais c'est arrivé, c'est toujours le jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est suffisamment aguerrie et qui va arriver à créer un compte avec un mail...
On te retrouve, on peut te retrouver. Le problème,
si tu vas sur Tor, etc.
Ah non, mais je vais te dire, le problème, c'est que si tu mets... Le truc, il est simple. Déjà, les gens qui vont sur Tor ou autre, de toutes les manières, déjà de base, ils ont envie d'être anonymes. Donc,
oui, mais si quelqu'un t'harcèle, c'est pour ça, quand je dis c'est un jeu du chat et de la souris, si le mec, il a la connaissance et qu'il sait comment être vraiment anonyme sur Internet,
oui, mais
normalement, il y arrivera.
C'est pas eux qu'on cible. Là, on dit, en gros, aujourd'hui, la loi donne les moyens, mais encore faut-il que la police et la justice aient les moyens de pouvoir gérer ça en volume. Parce que déjà, tu prends une plainte avec ton nom et ton prénom. Si je dis Taï Chris m'a harcelé et je porte plainte, déjà rien que ça, alors qu'on sait qui tu es, il faut être capable de pouvoir instruire ça. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce que la police et la justice n'ont pas le droit. En plus, deuxième élément, tu as plein, très souvent des gens qui, tu parlais de harcèlement, se présentent sous leur vrai nom. Le tragique assassinat de Samuel Paty, c'est une personne en visage découvert qui a fait une vidéo sur Facebook en appelant à le tuer. Je veux dire, son nom et son prénom, on le savait. Donc, il y a très souvent des cas qui ne sont pas cachés. Et dernier élément, il y a tous les éléments possibles pour faire ça. Le fait d'introduire cette notion de carte d'identité, je vous crée un lien entre pseudonymat et votre vrai identifié, c'est un moyen de ficher tout le monde. Et ça, aujourd'hui, si tu veux,
je suis pas
les lanceurs d'alerte, etc., ne peuvent plus exister. Ça me pose problème.
Je suis pas d'accord là-dessus. C'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que tu dois pouvoir naviguer sur Internet en étant anonyme si tu as envie. Ça, là-dessus, pas de problème, parce que finalement, tu navigues pour toi-même. Tu as envie de chercher, je sais pas comment tu dis, un billet d'avion. Ouais, tu n'as pas envie qu'on traque ça. Il n'y a pas de problème. Ce qui me dérange, c'est sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, tu interagis avec d'autres gens, et là...
Il y a une notion de responsabilité.
C'est pas que de responsabilité. Oui, c'est responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font... Il y a des jeunes, malheureusement, qui se suicident parce qu'ils se font harceler là-dessus. Il y en a d'autres, t'as des pédophiles qui créent des faux comptes, etc.
Il n'a pas tort, Damien, sur ce coup-là. Il n'a pas tort.
De pouvoir avoir un compte visiblement sur les autres utilisateurs où on ne peut pas, tu mets un nom bidon, etc. Mais si jamais, aujourd'hui, il y a tellement de jeunes, tu regardes sur Instagram, je crois que c'est interdit au moins de 16 ans, ou moins de 12 ans, quoi que ce soit. Mais toutes les gamines de 10 ans, elles ont Instagram.
Non, mais
et ça leur torture la tête.
Oui, mais la réalité. Mais la réforme, elle est plus profonde que ça. Et là, je rebondis sur ce que dit Damien. Déjà, les gens, quand on fait dans la vie normale, même non virtuelle, il y a pas t'as rabeau porté plainte, tout ça, il y a plein d'affaires que l'on voit.
Ah oui,
les
non,
gens
ça, c'est un
peu si plaintes que voilà.
Mais ça,
non,
c'est,
mais
ça,
oui,
c'est
mais
vrai.
Voilà, commençons par là aussi. Après, l'histoire de la, moi j'appelle ça des pseudo-anonymisations, parce qu'on réussit toujours à retrouver l'adresse IP, la preuve quand ils enquêtent, tu vois, sur Logbit, tout ça, ils ont même Logbit, ils ont réussi à remonter, ils en ont arrêté trois, ils en ont d'autres ciblés, tu vois, avec la collaboration aujourd'hui des fabricants.
Mais ça complexifie
les procédures. D'accord.
d'accord. Mais tu es d'accord, c'est que après on peut dire que les autorités sont débordées et que pour un petit harcèlement finalement, bah ils vont pas aller bien loin.
Ils vont pas faire la réquisition.
Mais tu crois vraiment que si demain tu allais porter plainte parce que Batman 75 c'est un gamin intel, tu crois que vraiment la police va aller aussi le sermonner?
Je crois pas. S'il est connecté sur dire sur une plateforme comme je sais pas moi France Direct ou quelque chose comme ça. Il le saurait, saurait qu'il est connecté.
Je
suis un peu l'avocat du
diable. Mais attendez, sans aller là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas envie simplement quand on a nos gamins et nos gamines, vous savez très bien en prenant l'exemple d'un Instagram qui donne une attention incroyable. Tu vois sur Instagram que des vies exceptionnelles de gens. Donc pour peu que tu as un gamin ou une gamine qui est seul dans sa chambre, qui est pas le top modèle que tu vois sur Instagram, etc., qui est dans la puberté, qui a 11 ans, qui a 12 ans, etc., bah elle va partir automatiquement en déprime en 2 secondes. Elle verra qu'elle sera jamais,
Et donc t'as pas envie.
Oui mais
supprime l'application, fait en sorte que ta gamine n'est jamais accès à ça.
Elles peuvent s'inscrire.
Oui mais non, il faut pas qu'elle s'inscrive. Si, je veux dire, ils mettent des lois, c'est interdit aux moins de 16 ans. Mais toutes les gamines de 10 ans, elles ont Insta.
Oui, mais tu vois, c'est pas lié.
Pourquoi tu fais une loi ? Tu fais une loi et tout le monde sait qu'on la respecte pas en étant parent. Moi, je veux dire, ma fille, elle est trop petite, elle a 1 an et demi. Mais le jour où elle
est sur Insta déjà, c'est pas sérieux.
C'est pas sérieux. Mais le jour, si à 8 ans, elle commence à me dire, je veux Insta, et moi, connaissant à quel point ça peut perturber de voir tout ça dans le rapport aux autres, etc., je serais bien content qu'elle ne puisse pas le télécharger, quoi.
Le truc qu'il y a à avoir en tête, c'est que derrière, la loi SREN, qui est sur la sécurité numérique, va obliger les sites X à devoir prouver que les acteurs, enfin les gens qui viennent sur leur site sont majeurs. Il va falloir trouver un moyen de faire ça. Moi, mon sentiment, c'est que la tribune de Paul Mégui, elle est purement opportuniste.
Elle est vraiment mal née.
Par rapport à une nécessité sur certains cas, mais je pense que dans d'autres cas, ça peut vraiment être bien qu'il y ait une protection d'identité.
Un dernier point quand même, parce que ce sujet me tient vraiment à cœur.
On explose les compteurs. Ouais. Et c'est pas grave.
Un dernier point là-dessus, c'est que tous les fabricants d'applications, ils auraient pu bloquer ça bien avant, parce que eux, ils savent réellement le nom, l'âge des jeunes, etc. Mais eux, ils veulent vendre plus de pubs.
Oui, bien sûr.
Et donc, ils acceptent, ils ouvrent les
vannes. C'est l'hypocrisie, évidemment, de ces réseaux sociaux. Voilà. Ça sera le mot de la fin. On reviendra sur ce sujet, parce que je sais qu'il vous tient à cœur et qu'il y a énormément de choses à dire. Voilà, l'heure tourne, malheureusement. Merci beaucoup, Taïg.
Merci.
À très vite.
Un plaisir.
Tu reviens quand tu veux.
Merci.
Fondateur de On-Off. Merci à Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil L'Apprentice. Et merci à Fred Simotel.